bonjour, heureuse de vous retrouver. Quel est le revenu universel? Qu'est-il devenu surtout? Et surtout, d'où vient-il et que propose-t-il? Si l'idée a littéralement germé pendant la dernière campagne présidentielle, elle a aussitôt été enterrée avec la défaite de celui qui l'a portée. Quel intérêt aurions-nous à la réhabiliter? Pour en débattre, un philosophe et un économiste, Baptiste Milando et Guillaume Allègre, nous rejoindront pour la deuxième partie de l'émission. Mais d'abord, The World is Yours, figure du cinéma américain. Il publie à 77 ans son premier roman noir chez Rivage. Le réalisateur de Scarface, de Carrie, de Blue Out, des Incorruptibles ou encore de Mission Impossible est aussi à l'honneur de la Cinémathèque de Paris qui lui consacre une rétrospective jusqu'au 4 juillet. Une filmographie faite d'aller-retour entre studios hollywoodiens et productions indépendantes. Say Hello to My Little Friend façon Al Pacino, Brian De Palma est notre premier invité. À écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
La serveuse d'une minceur parfaite, comme seules les Françaises en ont le secret. Ouvrez la parenthèse, c'est-à-dire que malgré sa taille fine d'adolescente, elle a de jolis seins ronds qui s'accordent joliment à ses fesses, d'une rondeur impeccable. Refermons la parenthèse. Leur apporte les cafés. Nick semble songeur. Brian De Palma, bonjour.
Bonjour.
Et bonjour à votre voix française, Michel Slotowski.
Bonjour.
Vous aimez la France, Brian De Palma, et elle vous le rend bien, avec coup sur coup, une rétrospective à la Cinémathèque française qui s'ouvre aujourd'hui jusqu'au 4 juillet, et la publication chez un éditeur français, Rivage, de votre premier roman noir, Les Serpents sont-ils nécessaires, coécrit avec votre compagne Suzanne Lehmann, bonjour.
Bonjour.
Ma vraie femme, c'est mon film, pas toi. A dit Brian De Palma, le Brian De Palma ontologiquement cinéaste devant la caméra des documentaristes Noah Baumbach et Jake Paltrow pour un film portrait de Palma qui ressort aujourd'hui chez Carlotta. C'est pour l'éloigner de cette dangereuse rivale, le cinéma, que vous l'avez mis au roman noir, Suzanne Lehmann?
Absolutely not.
Certainement pas.
Brian will tell you. He has lots and lots.
Brian va vous le raconter.
Has a many story ideas and
il a beaucoup d'idées
et
le cinéma exige énormément d'efforts, alors qu'un livre, on peut se mettre à l'écrire, et c'est ce que nous avons fait.
Ensemble, à quatre mains, ou deux.
Oui,
Brian
a une imagination très visuelle. Il a des morceaux entiers qui sont en fait les piliers du livre. Et il les a partagés avec moi et on l'a écrit chapitre par chapitre. Il planifiait une scène, il la cartographiait. Et lui, il est très très bon avec des dialogues. Et nous, on a développé ensemble eh bien, l'intrigue et les personnages.
Brian De Palma, est-ce qu'on écrit un polar de la même manière qu'un scénario?
Not really. A movie script is.
Pas vraiment. Un scénario de film. Il y a l'intrigue, il y a les personnages et il y a les dialogues. Mais on n'a pas beaucoup de descriptions parce que quand vous faites le film, ben vous allez sur site et le public voit les choses. Donc vous n'avez pas besoin de le décrire en profondeur dans le scénario. Et vous ne parlez pas de la vie intérieure des personnages non plus parce que ce sont les acteurs qui le portent à l'écran quand ils jouent. Et voilà les qualités pour lesquelles Suzanne est extrêmement performante. Et donc moi, je délimitais un petit peu, je décrivais un peu l'intrigue, un petit peu de dialogue, et elle l'embellissait. Elle créait l'ambiance et les descriptions des sites et la vie intérieure des personnages.
Une des vertus du roman, Brian De Palma, Suzanne Lehmann, c'est qu'on contrôle tous ces personnages jusqu'au bout. Pas de caprice de star possible. Et vous avez été confronté à cela, Brian De Palma, sur vos tournages. Vous avez raconté combien ça a pu être difficile par moment avec Cliff Robertson dans Obsession, avec Al Pacino aussi dans L'Impasse, ou même avec De Niro, que vous avez lancé et retrouvé 20 ans plus tard sur le tournage des Incorruptibles, en parrain absolument génial, mais qui n'apprenait jamais son texte avant de venir sur le plateau. Il fallait que vous le fassiez répéter et répéter pour que le texte entre dans sa bouche. Ici, tous vos personnages connaissent leur texte par cœur. Ça, c'est pratique avec le roman.
Well, it's a different problem.
Non, c'est un problème différent. Quand on fait un film, on collabore avec les acteurs. Et dans certains cas, ils apportent une réalité au dialogue que vous avez écrit, que vous n'aviez jamais imaginé quand vous les avez écrits au départ. Et vous espérez qu'ils vont trouver, ces acteurs, des choses dans le personnage qu'ils créent qui vont exploser à l'écran. En écrivant un livre, on crée les personnages et Suzanne et moi, on débattait de leur arrière-plan, d'où ils venaient, et elle améliorait. Elle crée vraiment un environnement émotionnel, émotif pour eux. Alors que dans un film, c'est l'acteur qui apporte ça.
Est-ce qu'il y a quand même pour vous, Brian De Palma, une petite frustration? Vous devez être heureux de voir cet objet commun, ce livre édité ici en France, chez Rivage Noir, Les serpents sont-ils nécessaires? Mais est-ce que vous avez quand même déjà envie de le voir sur écran?
Ouais,
ça ferait un très bon film. Sans l'ombre d'un doute. Mais on l'a fait parce que ça nous amusait de le faire. C'était du pur plaisir, une rigolade, lorsqu'on se repassait les chapitres. En supposant que lui va faire ci et qu'elle va faire ça, c'était une expérience merveilleuse.
Alors justement, Les serpents sont-ils nécessaires a donc été écrit à deux mains. Est-ce que vous vous êtes amusé à inverser les rôles aussi pour certaines scènes? Qui de vous deux, par exemple, est dans la tête de Lee quand il se demande comment faire pour déshabiller Fanny?
C'était une de mes parties favorites. C'est parce que quelque chose se passe, ils sont tous les deux en scène, et ce qu'ils se racontent, les choses sont totalement différentes.
Roger pense comment faire pour la déshabiller. Il glisse la main entre les cuisses de Fanny. Il sent la chaleur. Il attend le feu vert. Et apparemment, il l'obtient. Bravo, pense-t-il. Fanny pense, Lee Rogers, vous êtes l'homme de ma vie. Lee Rogers déboutonne le chemisier de Fanny court. Il la regarde droit dans les yeux pour voir avec quelle insistance ils disent oui. Satisfait, il introduit son pouce sous les agrafes de soutien-gorge Victoria's Secret et d'un geste rapide, d'un mouvement expérimenté du pouce de l'index, il l'enlève. Le sénateur contemple la jeune fille et sa semi-nudité ravissante. Alors c'est de plus en plus chaud, donc je vais arrêter ma lecture ici. Et donc je me demandais si cette scène était née du cerveau d'une femme, le vôtre, Suzanne Lehmann, ou du cerveau d'un homme, ce qui paraîtrait peut-être plus évident, Brian De Palma.
She wrote it.
C'est elle qui l'a écrit. Non, c'est lui qui l'a écrit.
She wrote it.
C'est elle qui l'a écrit. C'est lui.
It pleases me to look around the room.
Non, non, ça me fait plaisir de voir que les gens rigolent parce que c'est très comique. Des gens avoir la même expérience et qu'ils la racontent ensuite de façon totalement différente.
C'est un hasard, c'est tout. Je les ai rencontrés chez Laverne l'automne dernier. Betty peut-être une fois et Lorna pas plus de deux fois. Elle venait pour se faire payer à boire ou à manger par une sœurette.
Pourquoi vous êtes-vous enfui hier soir?
Monsieur, mon père était Emmett Lynn Scott. Le Emmett Lynn Scott. Il a bâti la moitié d'Hollywood et de Long Beach. Imaginez, les gros titres. La fille du magnat de l'immobilier interrogée dans l'affaire du Dahlia. Elle faisait du pied à la morte dans les boîtes lesbiennes.
J'imagine, oui. Bon, et de quoi vous parliez?
Quand?
Quand vous vous faisiez du pied.
Lorna avait parlé d'un petit copain abruti qui était à Hicktown, au Nebraska, ou je ne sais plus où. Et Betty avait parlé du dernier numéro de Screen World. Le rêve hollywoodien, les pieds de Starlet et tout le tintouin.
Est-ce que Betty vous a dit qu'elle devait tourner?
En tout cas, du côté conversation, elles étaient à votre niveau.
Charmant. Répondez à la question.
Écoutez, je suis fatiguée. Vous voulez mon alibi pour que je rentre chez moi?
Oui.
Ma famille et moi, nous étions à Laguna de dimanche à jeudi avec tous nos serviteurs. Si vous voulez vérifier, appelez mon père, mais s'il vous plaît, restez discret.
Les femmes sont centrales dans cet ouvrage aussi, manipulatrices et vénéneuses, ou manipulées et sacrifiées. Suzanne Lehmann, depuis l'affaire Weinstein, on questionne beaucoup les représentations de la femme dans la fiction, dans la littérature comme au cinéma. Est-ce que vous vous êtes l'un et l'autre interrogé sur votre responsabilité en écrivant cela ?
Well, this is basically a woman's revenge.
Ah, c'est une vengeance féminine, finalement, ce livre. Les hommes s'en sortent plutôt bien, mais bon, il y a quelque chose qui se produit à la fin.
Elizabeth de Carlo.
Elisabeth de Carlo en fait réussit à démontrer que Barton Brock est un personnage horrible et très très sombre, et elle réussit à s'en débarrasser.
This is a novel for the Me Too era.
Non, c'est vraiment un roman pour l'époque du Me Too.
C'est un roman aussi qui nous plonge vraiment dans les coulisses du politique, de Washington à Las Vegas en passant par Paris, où un photographe, Nick, est engagé comme photographe de plateau sur le tournage d'un remake de Vertigo, Sueur froide, de Hitchcock. Le personnage central est un sénateur, Lee Rogers, qui se présente aux élections. Son directeur de campagne, Barton Brock, est un mercenaire de l'ombre, prêt à toutes les compromissions, mauvais coups pour faire gagner son candidat, incorruptible coureur de jupons. De Crump à Trump, Brian De Palma, la période politique, celle d'aujourd'hui, est-ce qu'elle vous inspire de nouveaux pas de côté ? Comme à l'époque de Blowout, de Outrage, qui était plutôt sur la guerre du Vietnam, ou de Redacted sur la guerre d'Irak.
C'est un peu trop tôt pour dire
quelles sortes d'idées vont sortir pour réagir à la folie qui se produit dans notre vie politique d'aujourd'hui. Nous prions pour que notre démocratie survive. Mais le prochain opus sur lequel nous travaillons va avoir avec le harcèlement sexuel dans le Hollywood d'aujourd'hui et New York. Par exemple, ce qui s'est passé au cours des 30-40 dernières années, j'avais l'idée de faire un film d'horreur avec ce genre de personnage.
Tout ce qui s'est passé, finalement, ne vous surprend pas. De la même manière qu'on pourrait dire que le sénateur Lee Rogers, votre protagoniste, est un peu l'archétype de la vie politique américaine, Weinstein est aussi un archétype d'Hollywood.
Well, I mean, it's extreme.
Non, c'est un personnage poussé à l'extrême. En fait, c'est quelqu'un qui a commis des crimes et qui s'en est sorti pendant des décennies. Et c'est bien que la justice finisse par le rattraper. Et l'affaire Bill Cosby, par exemple. Moi, je travaillais comme cuistot dans un restaurant de Greenwich Village. Et Cosby a tenté de lever ma petite copine. Et donc, moi, j'étais déjà au courant, déjà dans les années 60, que ce type était un prédateur et recherchait des femmes faibles et qu'il pouvait faire tomber.
Qu'est-ce qui entraîne ça ? Est-ce que ce n'est pas aussi la question que soulève votre roman à tous les deux ? Est-ce qu'on ne peut pas dire que le pouvoir et l'argent, où qu'ils se trouvent, en politique, à Hollywood, dans les médias d'où vous venez, Suzanne Lehmann, sont toujours corrupteurs ?
Le pouvoir corrompt, qu'est-ce qu'il y a de neuf là-dedans ? Quand on devient vraiment, quand on a beaucoup de pouvoir, eh bien, on est isolé des réalités du monde. Et parfois, vous faites mauvais usage de votre pouvoir. Quand vous êtes face à des jeunes femmes vulnérables, elles sont là pour vous servir, et puis vous êtes là pour les aider et non pas pour les exploiter. Intéressant de voir que ça a poussé beaucoup de femmes à chercher une position politique aux États-Unis. Ça sera très intéressant de voir si plus de femmes élues va faire progresser les choses. Est-ce que l'argent et le pouvoir seront aussi corrupteurs pour les femmes que pour les hommes ? Eh bien, ça reste à voir.
Mais vous faites aussi, Brian De Palma, un cinéma du désir. Et c'est ce que disait Truffaut, c'était sa définition aussi du cinéma. Est-ce que ce n'est pas aussi ce qui complique les relations hommes-femmes, ou plutôt celles du réalisateur avec ses actrices, que le cinéma et désir, ce qu'on retrouve une fois encore dans le roman, à travers la caméra du photographe, la caméra du réalisateur capte aussi.
Écoutez, Truffaut, il a couché avec toutes les femmes avec lesquelles il a tourné. C'est pas exactement une bonne idée. J'ai fait 3 films avec ma femme. Et ça représente une certaine quantité de tension dans nos relations parce qu'on ne la traite pas de la même manière que les autres actrices, parce qu'en fait, c'est votre femme. Mais c'est jamais une bonne idée d'avoir des relations avec un des acteurs de votre film, parce que cela corrompt la façon dont vous dirigez. Parce que vous vous inquiétez de ces sentiments qui ne vous aident pas beaucoup pour pouvoir les diriger sur le plateau.
C'est ce que vous écrivez l'un et l'autre. L'objectif est un séducteur. Les gens flirtent avec instinctivement. C'est-à-dire que symboliquement même, il se passe quelque chose durant le tournage dans ce rapport entre celui qui filme et celle qui est filmée.
Mais oui, mais vous voulez que le public tombe amoureux des personnages que vous créez. Dans Surfroide, il faut que le public tombe amoureux de la création d'Alfred Hitchcock. Et c'est ce que nous faisons. On les rend beaux, on les rend attirants, on les rend sexy. Et c'est une des grandes réussites du cinéma. Un philosophe a dit un jour que l'histoire du cinéma, c'est principalement de photographier des femmes.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Midi 20 sur France Culture, à l'occasion de la rétrospective que la Cinémathèque lui consacre et de la parution chez Rivage de son premier polar, Les Serpents sont-ils nécessaires, qu'il co-signe avec Suzanne Lehmann, le réalisateur américain Brian De Palma est notre invité. Un cinéma voyeur et référentiel, Brian De Palma emprunte et rend hommage avec Carrie, déjà adaptation d'un roman de Stephen King, et Le Dahlia Noir de James Ellroy, dont on entendait un extrait tout à l'heure en version française, mais surtout à son maître Alfred Hitchcock, qu'il n'a cessé de faire évoquer, à qui il n'a cessé de faire référence dans ses films, de Vertigo à Psychose, à Fenêtre sur cour, 3 films majeurs selon Brian De Palma, dont on retrouve des citations assumées et un esthétisme revendiqué dans Obsession, Pulsion ou encore Body Double, et surtout des sueurs froides.
Vertigo, a feeling of dizziness, a swimming in the head. Figuratively, a state in which all things seem to be engulfed in a whirlpool of terror, as created by Alfred Hitchcock in the story that gives new meaning to the word suspense.
There's someone inside me, and she says I must die. Just go, don't let me go.
A beautiful girl haunted by the desperate, unexplainable urge to destroy herself. A man possessed by the paralyzing vertigo that made him afraid of high places.
Vous avez évoqué Hitchcock qui disait que Vertigo, Sueur froide, était un film nécrophile. Vertigo, Sueur froide, que l'on retrouve dans votre roman cité sur le tournage du remake du film à Paris. Et tout le déroulement de l'intrigue se fait aussi en miroir avec le vertigo d'Hitchcock. Ce film d'Hitchcock, que vous citez ici encore et que vous avez cité à de nombreuses reprises dans vos films, Brian De Palma, sur l'acrophobie, sur l'absence, le doute et les doubles aussi, et les fantômes. Est-ce que vous-même devez composer encore aujourd'hui avec vos fantômes ?
Yeah, but the fact of making movies,
oui, mais le simple fait de réaliser des films, vous exposez votre subconscient d'une façon dont vous n'êtes même pas conscient. Et ça prend des années avant que vous voyez surgir des objets, des choses. Parce que vous faites vraiment, vous prenez tellement de décisions inconscientes quand vous faites un film, quand vous réalisez un film, et quand vous le voyez plus tard, vous vous posez, mais pourquoi est-ce que j'ai une chaise bleue dans ce film? Dans chaque film, il y a une chaise bleue. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, cette chaise bleue? Et bon, ça se rapporte à quelque chose qui s'est produit dans votre jeunesse, c'est resté coincé dans votre esprit, et ça se produit et se reproduit. Et l'image, par exemple, aider une femme pour éviter que des choses horribles lui adviennent, et puis que vous n'y réussissez pas, ça se produit dans mes films, et ça avait beaucoup à voir avec la situation de ma propre famille. J'essayais de protéger un de mes frères les plus vulnérables de la folie de mes parents, parce que j'étais un petit garçon et j'étais vraiment sans pouvoir, impuissant.
Mes 10 premiers longs métrages étaient indépendants, avez-vous dit. J'étais comme Orson Welles, j'avais des grandes idées et il me fallait beaucoup d'argent, alors j'ai dû retourner dans le système. On a parfois un peu du mal à comprendre exactement ce qu'est ce système. Comment avez-vous gardé, vous, Brian De Palma, la tête froide, malgré les gros budgets qui vous ont été dévolus sur des films comme Scarface, Mission to Mars ou Mission Impossible? Comment vous avez géré les contraintes du système?
Il est parfois important d'avoir un partenariat avec des gros producteurs qui vous permettent de gérer les stars quand elles demandent des choses qui ne sont pas vraiment pertinentes pour ce sur quoi vous travaillez. Mais les expériences les pires, c'était quand je travaillais avec HBO, quand je faisais avec un coach, une histoire sur un coach, et j'ai jamais vu autant de cuisiniers qui voulaient mettre un doigt dans la soupe pour essayer de la rendre immangeable. C'était, et moi j'ai dit à la fin, non, je ne peux pas travailler dans ces conditions. Et j'ai quitté le tournage.
Et du coup, à chaque fois que vous êtes allé vers du cinéma plus indépendant, vous avez essayé de financer ou d'autofinancer vos films, ça a été quand même comme des bouffées d'oxygène qui vous ont permis de reprendre le souffle ou l'énergie, de retourner dans ce système.
Non, le système a tellement changé. Et maintenant, les films pour adultes, véritablement pour les personnes matures, ne sont plus budgétés, financés par le système. Là, maintenant, on est dans des histoires pour ados et qui génèrent de l'argent qui leur permettent de continuer. Mais après avoir fait Mission Impossible, qui était un de mes films qui a eu le plus grand succès, quand Tom est venu me voir et m'a fait: qu'est-ce qu'on va faire pour la suite? J'ai dit quoi? Mais pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait faire quelque chose comme ça à nouveau?
Vous avez évoqué Brian De Palma dans vos références nombreuses, on le disait, au cinéma d'Hitchcock, mais aussi de Powell ou à d'autres comme Orson Welles, l'importance de transmettre cet héritage aussi, d'assumer ces références. Ce que vous, vous laisserez au cinéma, est-ce que ça vous préoccupe?
Non, ce que d'autres personnes sortent de l'œuvre. Moi, il y a un groupe de jeunes réalisateurs qui font des films totalement différents de ce que je fais moi. Et parfois, ils viennent me voir quand ils ont des séquences visuelles, ils me demandent mon avis, comment on filme cette scène-là. Mais les films qu'ils font, c'est des œuvres de caractère fondées sur des relations avec leur famille ou des mondes complètement stylisés. Wes Anderson, par exemple.
Donc on peut quand même aller vous piquer des références, mais vous, le fait que le cinéma est quelque chose qui se transmet de génération en génération, ça ne vous préoccupe pas?
Well, we always, learn from the people that came before us.
On apprend toujours des gens qui nous ont précédés.
And if I have done so,
they talk about, me being a Hitchcock imitator. Moi, je parle de moi comme étant un imitateur de Hitchcock. Je suis le seul réalisateur qui ait pris les idées d'Hitchcock et soit allé au-delà. Personne d'autre ne l'a fait. Je suis quasiment le seul qui ait vu le génie de ses histoires, de sa façon de raconter ses histoires et de pouvoir les élargir à des films que j'ai créés moi. En fait, je lui ai payé un tribut, un hommage, je lui ai rendu hommage. Comme lui, c'est la personne qui a initié ces idées dans mon esprit, des idées que j'ai fait fleurir au-delà de ce qu'il a fait lui.
50 ans après Meurtre à la mode, réalisé en 68, 6 ans après Passion, le dernier film sorti, on attend dans les salles votre prochain film, Domino. Ce sera le 30e. À 77 ans, vous prouvez que vous avez quand même encore beaucoup de choses à dire, que vous êtes loin d'avoir tout montré.
Oui, mais Domino est basé sur un scénario de quelqu'un d'autre. C'est un petit peu comme La mort aux trousses, dans le genre. Ça a vraiment une intrigue extrêmement simple. C'est le partenaire d'un policier tué par des terroristes et le compagnon de ce type, le camarade de ce policier part à la recherche des meurtriers. Mais il y a beaucoup de passages très très intéressants que j'ai pu explorer. En fait, ça a été difficile à réaliser. Parce qu'il a perdu le budget, ce film, à plusieurs reprises. Il a fallu arrêter, puis reprendre. Finalement, on a pu le terminer. Et c'est sorti plutôt bien.
Je vais terminer avec la question que vous posez tous les deux. Est-ce que les serpents sont vraiment nécessaires ?
Well, they're there.
Ben, ils sont là.
I mean, whether you like them or not.
Qu'on l'aime ou pas.
Watch where you tread.
Faites attention, vous mettez les pieds.
Merci beaucoup, Suzanne Lehmann. Merci, Brian De Palma. Merci.
Thank you very much.
Thank you very, very much.